chronique touristique à la grotte de Choranche. Entre stalactites fistuleuses, rivières souterraines et créatures cavernicoles, visite avec Agathe, l'une des guides de la grotte.
La grotte se situe donc dans le cirque de Choranche. Alors on parle de la grotte de Choranche, mais en réalité c'est plus la grotte de Couffin, parce qu'on peut voir son entrée qui est très réduite, donc elle a littéralement le cou qui est très fin. Cette grotte a été découverte en 1871, parce que cette période-là, il y a eu une très longue période de sécheresse, et donc les habitants du village de Choranche en contrebas, ils n'avaient plus rien à boire. Donc ils ont décidé de remonter les cours d'eau, pour trouver cette fameuse ressource. Alors ils sont arrivés devant l'entrée de la grotte qui était totalement bouchée. Il y avait eu un éboulis devant, donc ils ont dû dégager la roche. C'est les premiers à être arrivés dans cette cavité, ils étaient surpris par la taille. Il faut s'imaginer que c'était totalement noir. Donc une fois qu'ils ont trouvé de l'eau, et très vite, le lac il est à l'entrée, ils ne sont pas allés plus loin. Elle n'aura été explorée que 20 ans plus tard par un spéléologue de la région, Monsieur Oscar Descombaz, qui venait de Pont-en-Royan. Et donc il a décidé de visiter à peu près 300 mètres de galerie. Alors il n'a pas pu aller plus loin parce qu'à l'époque il n'était pas équipé pour traverser les obstacles naturels qui bloquent le passage. Et nous pour nos visites, on fait exactement le même trajet que ce monsieur parce que les obstacles sont toujours là et qu'on n'est pas équipé non plus.
Et entre temps donc elle a été explorée par d'autres spéléologues, il y a d'autres richesses qui ont été découvertes. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'architecture assez spectaculaire en fait de cette grotte qui regorge de petits trésors?
Oui, alors c'est vrai que cette grotte est assez impressionnante de par sa taille. On a même une salle qu'on va appeler la cathédrale parce qu'elle va faire plus d'une 30 mètres de haut. Alors ça, c'est dû au creusement de l'eau, comme les grottes, mais aussi au fait qu'il y ait eu des effondrements qui ont permis d'avoir ces voûtes assez gigantesques. Alors les parties les plus larges, c'est celles qui vont être ouvertes à la visite. Par contre, en effet, il reste à peu près 33 km de galeries qui sont plutôt réservées aux spéléologues. Alors on sait que les galeries sont de plus en plus fines, donc on ne peut pas ressortir par un autre endroit, ils sont obligés de faire demi-tour. Alors aujourd'hui, on ne fait plus vraiment d'exploration, tout ce qui était observable à taille humaine a été observé. Par contre, chaque année, ils peuvent s'entraîner. On laisse une centaine de spéléologues rentrer dans la partie non touristique. Ils vont faire une petite boucle de 4 km. Et il faut s'imaginer que pour faire ces 4 km, ils mettent entre 8 et 10 heures tout de même.
Et donc, beaucoup plus long que la visite que vous proposez aux visiteurs et aux visiteuses. Combien de temps est-ce qu'elle dure, cette visite, et en quoi est-ce qu'elle consiste?
Oui, alors heureusement, la visite, c'est une heure et c'est sur des chemins aménagés. Pas besoin de jouer les explorateurs souterrains. Et pour la visite, on va faire un petit parcours qui va nous permettre d'explorer les trésors souterrains de Choranche. En particulier donc les stalactites fistuleuses, qui sont des concrétions très très fines et très fragiles, donc assez rares, surtout avec le nombre qu'on a ici. Et aussi les protées, qui sont nos petites mascottes, qui sont des animaux cavernicoles qu'on va se charger de conserver ici.
Et toutes ces formes, toutes ces cavités, ils ont été créés uniquement par la force de l'eau?
Oui, tout à fait. Alors même un petit peu plus précisément, c'est que l'eau de pluie. En fait, il faut imaginer, là on est à 300 mètres sous terre. Et donc quand il pleut, les petites gouttes d'eau de pluie, elles vont traverser la première couche au-dessus de la montagne. Et tout en haut, c'est une couche végétale, il y a des arbres au-dessus de nos têtes. Et en traversant ces couches, l'eau, elle va se charger en gaz carbonique. Ça va la rendre acide. Et comme le calcaire, c'est une pierre basique, les pluies acides vont avoir la capacité de la dissoudre. Donc petit à petit, ça va creuser des fissures qui vont s'élargir jusqu'à donner les cavités qu'on peut traverser aujourd'hui. Il faut savoir que le Vercors, c'est une géomorphologie qu'on dit karstique. Donc ça veut dire que c'est vraiment typique de cette érosion qui va se faire en surface et aussi de manière souterraine. Donc on va avoir plusieurs grottes de ce type dans la région. Après, vraiment, le fait qu'elle soit aussi large et qu'on ait ce type de concrétion, ça c'est assez spécifique à Choranche.
On continue notre visite. Nous sommes devant un paysage assez spectaculaire. On est face à une multitude de petites lignes blanches qui descendent vers le sol, qui sont accrochées au plafond. Qu'est-ce qu'on a devant les yeux?
Alors, ce sont les fistuleuses. C'est des concrétions assez particulières qui, en effet, vont ressembler à des spaghettis, mais on va être un petit peu plus précis. On peut les appeler aussi les macaronis parce que leur spécificité, c'est d'être creuses. En fait, il faut un paramètre très précis pour qu'elles apparaissent. c'est d'avoir un débit d'eau très très lent, parce que ça va permettre donc à la petite goutte d'eau de pluie qui a traversé la montagne parmi les petites fissures de rester accrochée suffisamment longtemps au plafond pour déposer donc toute la calcite. La calcite, c'est les minéraux du calcaire que l'eau va transporter, en faisant un anneau de roche tout autour d'elle. Donc comme elle a le temps, vraiment, elle va déposer la roche tout autour de la goutte d'eau. Et donc c'est ce qui va faire eh bien, que ça va créer un petit anneau. Et puis avec le temps, il va y avoir un autre petit anneau qui va apparaître, une autre goutte d'eau va passer à l'intérieur, déposer un anneau, etc., etc. C'est ce qui fait cette forme très creuse. Alors c'est un processus très très lent. Ici, on a réussi à calculer, sur les 100 dernières années, elle n'aurait pris que 5 cm en moyenne. Alors ça ne veut pas dire que sur les 100 prochaines années, elles vont grandir de 5 cm. Hein. C'est vraiment pour se donner une idée. Donc on peut faire un rapport d'environ 1 cm tous les 20 ans. Donc celle qu'on a à Chorange, pour la plus vieille, elle se situe vers l'entrée, elle fait 3,20 m. Donc on aurait 6200, 6400 ans tout de même. Et c'est assez précieux parce que du fait d'être creux, bah, c'est très fragile. Donc ça peut se briser avec par exemple un coup de vent. Alors heureusement, hein, il n'y a pas de tempête à l'intérieur de la grotte. C'est ce qui va permettre de les préserver. Aujourd'hui, bah, le plus grand risque, c'est surtout l'action humaine. C'est pour ça qu'on demande aux visiteurs de faire très très attention avant d'arriver dans la grotte, pour préserver ce petit trésor.
Et si vous deviez décrire donc cette scène qu'on a devant les yeux avec ces fistuleuses blanches, en fait, vraiment une blancheur presque immaculée, et l'arrière-plan pour les auditeurs et les auditrices, comment est-ce que vous les décririez ?
Ah bah, faut venir ! Non, bah, on va avoir vraiment en premier plan voilà, ces centaines de fistuleuses qui vont avoir des longueurs qui peuvent varier. Alors on sait qu'ici, là où on se trouve, elles auraient entre 3000 à 3500 ans, les fistuleuses. Peut-être pour donner un petit repère sur la frise chronologique, elle sera apparue pendant l'Égypte antique. Et derrière nous, on va avoir une concrétion assez célèbre parce que c'est celle qu'on va retrouver sur, par exemple, les panneaux d'autoroute. Alors c'est une concrétion qu'on va appeler une colonne. Parce qu'on peut voir que, eh bien, une stalactite et une stalagmite ont fini par se rejoindre.
Et la fameuse différence entre stalactite et stalagmite, est-ce que vous pourriez la rappeler ?
Bien sûr. Alors, stalactite tombe et stalagmite monte. En fait, les stalactites, ben, c'est quand l'eau va avoir le temps de déposer donc la calcite, ses minéraux, au plafond. Si jamais, à cause de la gravité ou d'un débit de l'eau assez intense, eh bien, la goutte d'eau tombe avant d'avoir déposé la calcite au plafond, elle va la déposer donc au sol, ce qui donne une stalagmite.
Et toutes ces couleurs qu'on a autour de nous, donc là pour l'instant on est dans un univers assez blanc, ocre, orangé, elles viennent d'où ?
Alors la cristallisation des minéraux peut jouer un petit peu dans la couleur, mais ce qui va donner les teintes aux concrétions, c'est principalement ce que l'eau va transporter en plus de la calcite dans son trajet à travers la montagne. Donc par exemple, pour tout ce qui est à jaune, eh bien, ça peut être des ocres, des oxydes de fer, on sait qu'il y avait des charbonnières au-dessus de nous. Donc il peut y avoir des taches noires dues au transport du charbon par l'eau. Et celles qui sont très très blanches, eh bien, ce n'est que des cristaux de calcite pur.
Et là, Agathe, donc, on est devant une rivière, une petite rivière qui coule. On voit de l'eau qui coule aussi du plafond. Est-ce que vous pouvez nous décrire et nous expliquer d'où vient cette eau ?
Alors bah, une fois de plus, c'est que de l'eau de pluie. Donc là, on est sur une rivière souterraine. En fait, la grotte de Couffintre, le lac à l'entrée, c'est la confluence de deux réseaux hydrauliques souterrains. Donc là, on est sur la rivière de Couffin. Et tout à l'heure, en continuant la visite, on va arriver sur la rivière de Serpentine. Alors en fait, ce qui va se passer pour les rivières souterraines, c'est que l'eau, eh ben, elle va creuser petit à petit. Donc elle va ouvrir des fissures qui va permettre à plus d'eau de passer. Et en fait, à force de passer toujours au même endroit, eh bien, l'eau va s'accumuler pour donner vraiment des réseaux souterrains. Alors on va avoir des rivières... voilà, de ce type, et aussi bah, de l'eau qui va couler du plafond, parce qu'on a quand même toujours ce système hein, de l'eau qui va passer par des fissures qui sont plus petites et grignoter petit à petit la pierre pour arriver jusqu'à nous.
Et donc là, on a fait quelques pas de plus, toujours dans la grotte. On continue une des galeries par laquelle on s'est inséré. Et on est face à quelques grosses coulées, donc ça ressemble à presque de la lave qui se serait figée dans le temps ou une cascade de glace. On sent qu'il y a quand même une concrétion, que c'est un amas de matière. Et alors, elles ont chacune des couleurs assez différentes.
Alors, les coulées, donc oui, ça s'apparente vraiment à des fontaines de roches. En fait, elles vont apparaître, alors ici spécifiquement, quand on est en période de crue. Quand on est en période de crue, donc le niveau de l'eau va monter. Et l'eau, elle va passer par des galeries qu'on appelle des galeries fossiles. Donc c'est des galeries qui ne sont pas toujours activées. Et ici, on en a dans la grotte, donc c'est les trous qui vont être au-dessus des coulées. Alors l'eau qui va passer par ces galeries fossiles, comme elle a traversé la montagne, elle est très riche en calcite. Donc en arrivant en contact avec l'oxygène de la pièce, elle va déposer la calcite sous eh bien, ces nouvelles formes. Et si ces formes, une fois de plus, elles ont des couleurs différentes, eh bien, ça va être par rapport à ce que l'eau a amassé en plus. Donc ici, c'est assez distinct, hein. Comme par exemple celle sur notre gauche qui est très très marron, là on sait que c'est passé par une couche argileuse par exemple.
Et devant nous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le charbon, il y a des nuances de gris, gris-noir qui se déposent en parallèle du orange-ocre de la terre.
C'est ça, c'est que l'eau a traversé probablement des zones d'anciennes charbonnières avant d'arriver jusqu'à nous. Et donc ça nous prouve bien que l'eau, sur son trajet, elle va amasser plein de petites choses, de la calcite, du pollen, c'est ce qui va nous permettre aussi de dater certaines concrétions. Elle va prendre aussi des déchets végétaux et des bactéries. C'est pour ça qu'on considère que l'eau de la grotte n'est pas du tout potable. On ne sait jamais par où elle est passée, surtout qu'on sait qu'au-dessus de nos têtes, il y a des pâturages. Donc je vous laisse imaginer hein, le résultat si on boit de l'eau qui a été contaminée par des déjections.
C'est ça, c'est qu'il faut qu'elle soit filtrée par d'autres formes de substrats par la suite pour qu'elle soit potable.
Voilà, et en fait ici, l'eau, elle met que 6 heures à traverser la montagne. Donc c'est très très rapide comme processus. Nous, quand il y a un orage, on s'attend hein, quelques heures après, à peu près 6 heures après, que le niveau de l'eau monte. Et donc c'est pas assez long pour pouvoir la filtrer.
Alors on continue notre visite et on est revenu un peu sur nos pas pour revenir dans la galerie centrale, la grande galerie dans laquelle on arrive. On est face à des aquariums qui contiennent des créatures assez incroyables. Comment est-ce que ça s'appelle et qu'est-ce que c'est, Agathe ?
Alors oui, ces petites créatures, ça s'appelle les protées. Protées, donc, ça vient de la mythologie grecque. Protée, c'était l'un des fils de Poséidon, qui, selon la légende, adorait faire la sieste dans les grottes. Ça leur va très bien parce que ces animaux, ils sont dits cavernicoles. Donc ça veut dire qu'ils n'existent que dans le monde souterrain. On ne pourra jamais les trouver ailleurs. Alors si on prend la théorie de l'évolution de Darwin, eh bien ces animaux ils sont adaptés à leur milieu. Et donc quand on regarde sur leur tête, on voit qu'il manque quelque chose. En fait leurs yeux ne se sont pas développés parce que eh bien ils vivent dans le noir. Donc ils n'ont pas besoin du sens de la vue, hein, ils sont totalement aveugles. Et la deuxième adaptation, c'est que bah, bien qu'ils aient atteint l'âge adulte, ils ressemblent un peu à des grosses larves. Ça c'est parce que leur peau n'a pas pigmenté. Comme ils sont jamais en contact avec les rayons du soleil, eh ben, ils n'ont pas besoin de se protéger, ils sont restés transparents. Donc on peut un peu deviner hein, où se situe leur viscère, ce qui donne cet effet un peu étrange. Hein. Ils n'existent pas dans les rivières souterraines de France. Ils sont endémiques de Slovénie et de Croatie. Donc ceux qu'on peut voir à Choranche, ils ont été élevés en laboratoire, puis ils nous ont été confiés pour qu'on puisse préserver l'espèce. Ils intéressent tout particulièrement les scientifiques en médecine, parce qu'ils ont la capacité de se régénérer. Donc un petit peu comme la queue du lézard, mais vraiment à plus grande échelle. Si on leur coupe un bout de patte ou un bout d'intestin, bah, c'est pas grave, hein, ça repoussera. Donc on comprend hein, que ça peut aider à soigner certaines maladies. Ils ont une petite particularité aussi du fait de vivre dans le monde souterrain, c'est qu'ici, il n'y a pas énormément à manger. Donc ils vont se nourrir de ce qu'on appelle des nymphargus, donc c'est des petits vers ou des petites crevettes. Nous, on leur donne des vers de vase dans les aquariums. Mais comme ils ne trouvent pas beaucoup de nourriture, eh bien, ils peuvent se passer de manger pendant plusieurs années. Ils peuvent passer 10 ans sans manger. C'est assez extraordinaire, hein, c'est autre chose que le jeûne intermittent que nous, on va essayer de faire. Et bien sûr, bah, comme ils ne mangent pas beaucoup, ils essaient de sauvegarder de l'énergie, donc ils ne bougent pas beaucoup.
Et là, justement, on les voit bouger donc devant nos yeux. Là, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu leur morphologie qui est assez inédite ?
Oui, alors ça va être un peu un mix entre un serpent et une salamandre. Alors c'est des amphibiens, ça veut dire qu'ils vont pas du tout faire partie de la famille des serpents. Par contre oui, pour les salamandres, on les appelle même les salamandres des grottes. Donc ils ont vraiment cette forme très allongée, avec deux petites pattes à l'avant, deux petites pattes à l'arrière, une queue, et donc une tête sans les yeux, et avec des petits plumons rouges de chaque côté. Ça c'est des branchies externes, c'est ce qui va leur permettre de respirer dans l'eau. Mais comme c'est des amphibiens, ils peuvent aussi respirer à l'air libre. Pour la petite anecdote, au Moyen-Âge en Slovénie, on était persuadé que les protées c'est en fait des bébés dragons. Ils ont un peu cette forme. Hein. Et quand certains étaient projetés à l'extérieur des grottes parce qu'ils n'avaient pas réussi à se protéger, le débit de l'eau les a emmenés dans le champ des paysans. Et là, eh ben, c'était panique générale hein, parce qu'on pensait que les parents dragons allaient venir les chercher. Alors, je rassure tout le monde, hein, pas de dragon à la grotte de Choranche.
Dommage. Bah, merci pour cette audio description donc des protées. Donc là, on en a 4 sous nos yeux.
Ouais, on en a 11 en tout, je crois.
Et on vous invite donc à venir les découvrir, parce que c'est quand même des créatures assez incroyables qu'on n'aurait pas la chance de découvrir ailleurs.
Nous voilà arrivés sur la dernière plateforme. Donc on est vraiment dans la même salle hein, par laquelle eh bien, tout a commencé. Le tunnel d'entrée est juste en face de nous. Alors si on s'arrête ici, bah, c'est pour pouvoir voir toutes les fistuleuses sur un autre point de vue. On peut aussi admirer donc, la plus longue hein, qui mesure 3,20 m. On peut voir aussi une trace marron tout autour du lac qui fait bien la jonction hein, entre le calcaire très blanc et cette partie. Eh bien ça, c'est le niveau que l'eau pouvait atteindre avant qu'on ait découvert la grotte. Donc on peut voir aussi que toutes les fistuleuses s'arrêtent plus ou moins à ce niveau, parce que comme elles avaient besoin d'oxygène pour grandir, elles n'ont pas pu continuer à pousser. Donc depuis qu'on a découvert la grotte, hein, le niveau n'atteint jamais plus le haut de la trace marron. On peut visiter sans problème.
Et il atteint plus cette trace, le niveau de l'eau, car il s'évacue de la grotte, enfin, il tombe à l'extérieur maintenant.
Exactement. Donc là, on va ressortir par l'entrée naturelle. C'est vraiment les deux réseaux hydrauliques qui vont ressortir par là et se retrouver dans la bourne.
Donc l'eau qu'on voit actuellement devant nos yeux dans la grotte de Choranche se retrouve dans la bourne juste après.
C'est ça, on est à la source.
On peut aussi parler peut-être de l'aménagement qui a été réalisé dans la grotte, qui rend le parcours quand même plutôt accessible. On est sur des chemins qui sont bétonnés, mais il y a quand même un respect esthétique.
Oui, on a essayé de faire en sorte que ce soit accessible à tous, sans pour autant eh bien, détruire le milieu qu'on veut vous faire visiter, parce qu'on est là, bah, bien sûr, pour partager et montrer ce trésor à tous, mais bien évidemment pour le protéger. Pour ce qui est des aménagements, bah, ça s'est vraiment fait petit à petit. Les visites ici, c'est depuis les années 60. Et donc, eh bien, ça n'a de cesse de s'améliorer. On essaie toujours de réfléchir pour faire en sorte que ce soit et praticable et sécuritaire pour tout le monde.
Et pour les personnes qui seraient peut-être inquiètes sur la notion de claustrophobie, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait les rassurer, parce qu'on est quand même dans des grands espaces ?
Oui, alors c'est vrai que quand on a peur des endroits un peu enfermés, on se dit que visiter une grotte, c'est pas une très bonne idée. Mais ça nous est déjà arrivé, bien évidemment. Une fois passé le tunnel d'entrée qui a été creusé par la main de l'homme, eh ben on arrive dans ces salles qui sont assez immenses, donc on ne se sent vraiment pas étouffé.
Et puis il y a de l'air, de la lumière, c'est quand même assez chaleureux comme espace.
Oui, on essaie de faire en sorte que ce soit un milieu aussi apaisant. Surtout que les visites voilà, se font avec un petit appareil qui s'appelle un audiophone. Donc chacun a sa propre oreillette qui va lui permettre d'entendre la voix du guide parfaitement, ce qui est très pratique, surtout quand on est en période de crue, parce que comme il y a l'eau qui est autour de nous, ça peut faire un petit peu de bruit. Et on essaie voilà, de faire en sorte que la visite soit agréable et calme. On reçoit aussi beaucoup de groupes de scolaires qui viennent voilà, profiter de ce spectacle et s'instruire sur la géologie. Mais c'est une visite bien évidemment adaptée à tout le monde. Et surtout que c'est une visite avec un guide qui va évidemment adapter son discours en fonction de chacun.
Et donc concernant les horaires peut-être d'accès à la grotte de Choranche, est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations pour cet été ?
Oui, alors pour l'été, de 10h à 18h, on a des visites toutes les 20 minutes. Il est bien évidemment fortement recommandé de prendre ses places en ligne pour être sûr d'avoir des disponibilités au créneau qu'on désire. Et c'est ouvert tous les jours, jours fériés inclus.
Ah oui, donc vous avez vraiment tout l'été pour venir découvrir cette pépite souterraine du Royan Vercors. Et donc pour réserver potentiellement ces billets ou avoir plus d'informations en ligne, est-ce que vous avez un site internet sur lequel les visiteurs peuvent se rendre ?
Oui, tout à fait. Alors on est sur le site visite au pluriel -6 nature-6 vercors.com. Et vous retrouverez eh bien, tous nos sites partenaires, donc aussi la grotte de Thaïs, le bateau à roues et le jardin des fontaines pétrifiantes.
Ben merci beaucoup Agathe.
Avec grand plaisir.